Alors bonjour. J'aimerais vous saluer dans chacune de vos langues particulières. Pour une chose, ça serait trop long. Et pour deuxième raison, c'est que je ne pourrais pas le faire. Je connais pas toutes les langues. Mais j'aimerais ça, on donne ça pour pouvoir vous saluer personnellement dans votre langue. Mais la chose est, c'est que ce qu'on vient de chanter, on a parlé de quoi? La grâce de Dieu. La grâce infinie de Dieu qui nous permet d'être ici réunis, rassemblés d'un peu partout dans le monde, à cause de la grâce de Dieu. À cause de Jésus-Christ, qui est la démonstration tangible, évidente, concrète, de la grâce de Dieu à notre égard. Nous, pécheurs, perdus, comme on a chanté, mais par Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on a chanté? Retrouvés. Alors, ce matin, c'est un peu différent dans le sens que on va vous partager un projet qui est en préparation depuis quelque temps. Et c'est Vincent qui va venir m'aider. Là, on va partager ça. Ensuite, il y a quelques jeunes femmes qui vont aussi prendre part. Alors, Vincent, tu peux venir me rejoindre pendant que je finis mon... Je ne sais pas ce qu'on appelle ça, une introduction, mais en tout cas, on va dire que c'est ça. Le projet que nous allons vous partager, c'est en préparation depuis quand même quelques temps. Si on vous présente ce projet, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres projets. Vous venez peut-être d'un pays où ce que c'est qu'il y aurait sans doute mille et un projets, possibilités. Mais humainement parlant, on ne peut pas prendre tous les projets. Puis, on s'attend à ce que Dieu dirige, puis qu'il permette, qu'il nous amène là où on voudrait qu'on prenne part, qu'on participe. Alors, si on le partage, ce n'est pas parce qu'on vous exclut ou qu'on pense pas que votre situation dans votre pays d'origine n'a pas de besoin. Alors, en guise de... Je vais juste m'ajuster un peu ici, là, pour être certain que... Alors, au mois d'août 2013, Vincent... C'est Vincent. Bonjour, Vincent.
Bonjour.
Juste pour être certain qu'il était là présent avec moi. On voit sa photo, mais je voulais juste être certain qu'il...
C'est bien moi.
C'est bien celui qui parle, OK? Alors, il s'est rendu au Burundi, son pays natal, mandaté par le conseil de l'Église de se rendre sur place pour évaluer les besoins de l'Église de Mataba et déterminer comment nous pourrions, en tant qu'Église ici, leur venir en aide d'une manière tangible, pratique et sensée. Après son retour, il a donné un compte-rendu au Conseil et à l'Assemblée. Et au début de l'année 2014, le Conseil a délibéré sur les projets potentiels qu'il suggéra et en a choisi certains qui seraient présentés à l'Assemblée, et qui sont aujourd'hui, pour que chacun en prenne connaissance et détermine comment y prendre part, selon leurs intérêts et leurs moyens.
On va se rafraîchir la mémoire. Le Burundi, c'est un petit pays qui se trouve en Afrique, au sud-est de l'Équateur. Il a 27 834 km² et c'est un pays parmi les pays les plus pauvres. Ils se classent au rang de 198 sur 187. Alors, vous comprenez que c'est un pays qui est vraiment très pauvre. C'est un pays qui a passé beaucoup dans la guerre. La guerre est fratricide entre nos trois ethnies. Et maintenant, ils se remettent petit à petit de cette guerre. La plupart des gens subsistent au moyen de l'agriculture. Et c'est un pays aussi surpeuplé. Vu qu'il est trop petit, il y a 300 personnes par kilomètre carré et il y a 10 millions de personnes comparé au Canada qui a 35 millions de personnes. Et 66% de la population vit sous le seuil de la pauvreté, à peu près 1,25$ par jour par personne. Vous comprenez que c'est vraiment un pays très pauvre. La langue officielle, comme je vous ai présenté cette langue dans la prière, c'est le Kirundi et le français. Mais le français est au sein des bureaux et le Kirundi partout dans la population. Il y a aussi le Swahili qui est parlé à Bujumbura.
Alors, pendant le séjour que Vincent a passé là-bas, et qu'il avait été mandaté pour faire une évaluation. Alors, voici un bilan de la situation actuelle. On parle premièrement d'infrastructures, des bâtiments d'église, des dispensaires et maisons d'accueil qui, bien souvent à cause de la guerre, sont vraiment en détérioration. Il y a un manque de formation pastorale. L'église de Mataba, où Vincent s'est rendu plus particulièrement, eh bien, la plupart... De ceux qui forment ou qui composent l'Église, ce sont des femmes et des enfants qui sont à 80% analphabètes. Il y a aussi, suite à la guerre, beaucoup d'orphelins et que l'Église en a pris charge. Les dirigeants d'Église, les pasteurs, sont peu rémunérés. Bien souvent, pas suffisamment pour subvenir à leurs besoins. Alors, soit qu'il faut qu'ils, dans un sens, aillent travailler, même ils le font déjà, là, mais je veux dire, ça complique un peu les choses des fois quand on accomplit un ministère. On voit quand même un zèle des membres de l'Église à reconstruire les bâtiments et détruits et à aider vers une autonomie.
Quand je suis allé au Burundi, d'abord, il y avait la curiosité de savoir est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'il y a les gens à qui on peut prendre confiance. Donc, j'ai pu rencontrer des personnes fiables, le président de l'association des églises baptistes, Julien Nsengiyumva, c'est un homme de confiance. J'ai pu rencontrer le pasteur Emmanuel, j'ai rencontré aussi Gaspard Nibizi. J'ai rencontré celui qui m'a mis en communication avec l'église, Osé Bizimana et Silas Nukamazina, le vice-représentant. Ces gens-là sont des gens que j'ai pu côtoyer et j'ai remarqué qu'ils ont une capacité de pouvoir gérer, de pouvoir faire les choses. Ils essaient d'aider autant qu'ils peuvent. Et aussi, lorsque je suis parti, on a mis en place un système de contrôle parce que là-bas, quand ils avaient un peu d'argent, ils les utilisaient juste dans les petits tiroirs. Alors, je les ai aidés pour qu'on aille à Bubanza ouvrir un compte bancaire afin que tout l'argent puisse être acheminé vers le compte bancaire pour pouvoir après ressortir les tableaux, nous montrer comment est-ce qu'ils ont dépensé l'argent. Et il va y avoir une collaboration étroite entre l'église de Le Sentier ici et l'église de Mataba. Probablement qu'il y aura aussi des possibilités d'aller vérifier, voir comment est-ce qu'ils sont en train de fonctionner.
Alors, basé sur ce qu'on a vu ce que Vincent a vu comme situation actuelle, voici la liste de projets proposés. On va juste les mentionner, ensuite on va les détailler. Alors, on a premièrement l'infrastructure, puis le développement, la formation de leaders, l'alphabétisation, les orphelins à la charge de l'Église de Mataba et aide à la survivance pour l'Église de Mataba.
En ce qui concerne l'infrastructure, l'Église là-bas, c'est une Église qu'on a construite tant bien que mal, mais c'est toujours la boue dans l'Église, c'est la poussière. Alors, il y a un plancher de l'Église à Mataba. L'évaluation se fait à 2 800 $. Le bâtiment de deux sécurisaires qu'ils ont, les sécurisaires, c'est l'église sœur, qui est Rouvinvia et Samoué, qui est, l'évaluation est de 5 600. Et la maison de passage, qui a été complètement démolie, l'évaluation est de 5 500. Il y a le volet développement. On a pensé qu'il serait bon de donner 35 chèvres à un réseau de 1 600 pour les 35 chèvres. Et aussi un moulin pouvait leur permettre d'avoir un petit revenu par mois qui est de 3 000 $. Maintenant, je vous passe Gaëtan pour la proposition.
Alors, basé sur justement les besoins et le projet comme tel, touchant l'infrastructure puis le développement, la proposition, c'est de venir en aide aux moyens de dons désignés de 18 500 $ étalés sur 5 ans, soit une moyenne de 3 700 $ par an. Alors ça, ce serait des dons désignés. Ensuite, on a touché la formation et présentement, c'est au niveau de la discussion, alors on n'a rien de concret à proposer, alors, ça s'applique pas pour le moment. Ensuite, on a le projet d'alphabétisation.
Comme vous a déjà parlé, la majorité de la population qui est à l'église, ce sont des femmes et des enfants. Et à cause de la guerre, la plupart ne savent pas lire et écrire. Et alors, on est allé voir, on a trouvé que 85% de la population sont analphabètes. On propose d'utiliser un programme qui est là déjà du gouvernement. C'est pas seulement à Mataba, mais un peu partout dans le pays. Il y a la plupart des gens qui ne savent pas ni écrire ni lire. Donc, il y a un programme qui a déjà été établi, mais qui prend que chaque région puisse prendre en responsabilité les responsables qui vont donner la formation. Et ceci, la formation de 5 jours pour 2 formateurs qui s'investiront pour 25 à 30 personnes sur 6 mois. Et ces personnes pourront savoir lire et écrire. Donc, pour l'instant, c'est là où c'est rendu. On a trouvé que c'était pas nécessaire de donner des Bibles puisqu'il ne faut pas les lire. Il faut commencer d'abord par les enseigner à écrire et à lire.
Alors, pour ce qui est de la proposition par rapport à ce projet d'alphabétisation, il est proposé de mettre au budget de missionnaire de l'Église le sentier 1 500 $ par an pendant les 5 prochaines années. Alors, ensuite, il y a le projet des orphelins. Et là, on a une équipe spéciale qui vont nous faire une présentation à ce sujet, avec une présentation PowerPoint différente, plus belle que la mienne.
Désolée, je connais pas très ça. Donc, bonjour à tous. Comme vous vous rappelez, nous avions présenté ultérieurement notre ministère SOS, Soins aux orphelins, avec moi-même, Stéphanie, Maude et Marie-Ève. Nous avons été grandement bénis par des gens qui ont eu à cœur les orphelins du Honduras par l'entremise de Mélodie Francis. Nous avons continué à prier afin que le Seigneur nous montre son plan et c'est ce qu'il a fait avec le projet de Mataba via Vincent. Dieu nous a également bénis de 2 autres membres dans notre ministère, soit Josiane et Amy. Elle était au piano, elle est là. Donc, c'est ça. L'œuvre du Seigneur grandit et nous sommes reconnaissants de cela. Vincent nous a donc approché avec le projet Mataba en Afrique. Mataba est une communauté dans le besoin avec évidemment des orphelins, ainsi que des gens dans la pauvreté et aussi une lacune éducationnelle. Ce village a malheureusement été touché par une guerre civile et a eu de nombreuses répercussions. Heureusement, Dieu envoie des gens et donc des églises afin de pallier à leurs besoins même primaires. Comme le dit si bien ce verset, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve dans Isaïe 1:17. L'Église est donc appelée à faire tout cela par amour et obéissance à la parole de notre grand Dieu. Josiane va donc décrire comment, à travers notre ministère, vous pouvez faire une différence dans cette communauté chrétienne et dans la vie des enfants qui en font partie.
Bonjour. Mon nom, c'est Josiane Couillard, ou Joannis, puisque je suis mariée à Maxime Joannis, celui qui joue du violon. Je me suis jointe à l'équipe du ministère Soins aux orphelins il y a quelques mois. Je vous avoue que ce matin, je suis très nerveuse, parce que c'est la première fois que je parle devant l'Église, donc c'est un petit défi. Mais je suis pas là pour parler de mon stress, mais d'un des beaux projets présentés par Vincent et Gaétan, qui est le parrainage d'orphelins à Mataba, au Burundi. Nous, le ministère Soins aux orphelins, allons s'occuper de cette partie, puisque notre mission première est l'aide aux orphelins. Nous avons un beau projet de parrainage pour une communauté qui en a grandement besoin. Ici au Québec, on peut dire que nous vivons dans l'abondance. Je crois que nous sommes appelés à partager cette abondance avec des frères et des sœurs à travers le monde pour faire avancer le royaume. Je vais donc vous présenter une des façons par laquelle vous pourriez aider. C'est un projet de parrainage d'orphelins à Mataba, mais c'est plus que ça en fait. Car en plus d'aider des orphelins, nous aidons la communauté à devenir indépendante financièrement. Alors, le parrainage va premièrement aider les orphelins à être éduqués en pourvoyant aux frais de scolarité, en les habillant et en leur fournissant un lunch, car comme nous le savons, il n'est pas facile d'apprendre l'estomac vide. Ensuite, une autre partie ira pour les enfants, les autres enfants de la communauté, car puisque ce n'est pas seulement les orphelins qui sont dans le besoin. Dernièrement, une partie ira pour la création d'un magasin coop qui sera géré par l'Église là-bas et qui leur permettra de devenir autonomes financièrement. En fait, le magasin est, selon ce que Vincent a découvert là-bas, la meilleure façon d'avoir un impact important et ce, à long terme. Parlons chiffres maintenant. Combien ça coûte tout ça? Comme l'a mentionné Gaétan, ou finalement non, mais c'est correct. Nous recherchons 35 personnes ou familles qui ont à cœur de s'engager à donner 30 $ par mois pour parrainer un orphelin et par extension sa communauté. En fait, il y a 37 orphelins pris en charge par l'église locale de Mataba. Et nous avons deux enfants ont une famille pour les parrainer, alors il nous reste 35 familles à trouver pour les 35 autres orphelins. Nous croyons que c'est une belle opportunité que nous avons, nous, en tant que famille chrétienne québécoise, d'aider des enfants qui en ont vraiment besoin. En plus, le fait de parrainer un enfant peut être une très belle façon de montrer à nos propres enfants la grâce que nous avons ici au Québec et de remercier Dieu pour cela en leur montrant l'importance de partager ce qui nous a été donné. Ultimement, nous aimerions des engagements de 5 ans pour pouvoir mener le projet d'un magasin à terme et optimiser l'aide que nous, l'Église Le Sensier, pouvons apporter à ces orphelins et à cette communauté. Peut-être aurez-vous la réflexion que c'est un long engagement, mais bâtir un avenir pour les enfants et leur communauté prend un certain temps, comme vous l'aurez deviné. Il est écrit dans 1 Jean 3:18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » À la fin du service, il y aura une table dans le foyer de l'église où Maud et Marie-Ève pourront vous expliquer plus en détail la procédure à suivre pour les dons pour le parrainage. Bien sûr, il y aura des reçus d'impôts émis à la fin de l'année pour ces dons. Il y aura aussi à la table des photos des orphelins qui ont besoin de parrainage. N'hésitez surtout pas à venir nous voir, nous poser des questions, quoi que ce soit. Nous aimerions que chacun de nous prenions un temps de réflexion et de prière par rapport à ce projet afin de connaître la volonté de Dieu face à un engagement de parrainage. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et bonne réflexion. En terminant, nous avons une petite vidéo. C'est une vidéo de l'église là-bas.
Alors, merci beaucoup. Alors, en voyant le petit vidéo, j'ai eu un flash du Congo. En tout cas. Alors, c'est bien, il va y avoir une table avec l'information pour le parrainage d'orphelins. Et la proposition, justement, c'est que des personnes mettent ça devant le Seigneur et prient et s'engagent pendant 5 ans. Et alors, c'est pas juste de donner, on dirait ça va plus loin que ça dans le sens de les aider en tant qu'Église, de devenir autonome et de pouvoir, ce qu'on prie, c'est qu'eux puissent aider une autre Église peut-être qui est un peu dans la même situation qu'ils sont actuellement et que ça puisse se perpétuer jusqu'au retour du Seigneur. OK? Alors, on arrive au prochain projet.
Merci pour la présentation qu'on vient de nous présenter. Moi-même, en regardant la danse, je me suis retrouvé là-bas. Et dans la survivance de l'Église, pendant cette période qu'on n'aura pas encore trouvé les moyens de pouvoir subvenir à leurs besoins, présentement, il y a un défi annuel de 1 500 $ pour l'église, pour le fonctionnement, les pasteurs, etc. Dans 6 ans, le projet de magasin comblera le manque à gagner. Et au 7e année, l'église devrait être autosuffisante.
Alors, pour, en tant que proposition à cet égard de venir en aide à la survivance de l'église de Mataba, c'est de mettre au budget missionnaire de l'Église de Sentier 500 $ par année pendant les 7 prochaines années et ce sera évalué annuellement. Alors, si on revient sur l'ensemble des projets, j'aimerais faire un sommaire. On a au numéro 1, un A, un B. Alors, l'infrastructure, c'est basé sur 5 ans, 13 900 $. Le premier volet, c'est de 2 800 et ce sera, on prie comblé par des dons désignés. Le deuxième volet du numéro 1, c'est 2 projets de développement, l'achat de chèvres en coopérative et la réparation du moulin. Et encore ça c'est sur, j'ai pas les chiffres là, mais je pourrais vous les donner si j'ai négligé de les mettre. Sont-ils là? Non, je ne l'ai pas mis. Excusez-moi. En tout cas, ça aussi, ce serait pour au moyen de dons désignés. Ensuite, le numéro 2, formation des leaders, c'est à déterminer. L'alphabétisation, eh bien, c'est 1 500 $ par année pendant les 5 prochaines années et à être ajouté au budget missionnaire. Pour ce qui est des orphelins, le parrainage de 30 $ par mois pendant 5 ans, c'est des dons désignés par les familles qui s'engageront envers ces orphelins. Et ensuite, l'aide à la survivance, l'église de Mataba, c'est 500 $ par année pendant 7 ans au budget missionnaire. Et après ces 7 ans-là, et en principe, bien, le magasin va être en fonction, il va avoir un roulis et ils vont pouvoir subvenir à leurs besoins.
Enfin, nous sommes à la fin. Je voulais juste, du fond de cœur, vous remercier de votre bonté, de votre générosité, de ce que vous avez pris à cœur de parrainer l'église de Matawa pour qu'il puisse se prendre en main, pour qu'il puisse étendre le message, parce qu'ils ont déjà qui doivent voyager à longue distance à pied, qui vont donner la parole. Et alors, je vais vous remercier, vous demander de mettre ce projet devant la main du Seigneur. C'est lui qui va diriger, c'est lui qui va vous aider à comprendre sur quoi vous prenez la décision. Ce n'est pas juste quelque chose, dire « bon, je donne l'argent », c'est pas suffisant. Il faut prier pour cette église et prier pour les Burundais pour qu'ils puissent sortir de cette impasse dans laquelle ils se sont plongés. Merci.
Alors, merci Vincent et Josiane et Stéphanie, c'est ça. Je savais que vous aviez une bonne mémoire. Pas toujours comme la mienne, en tout cas. Alors, j'aimerais que, avant de poursuivre, d'ouvrir la parole de Dieu ensemble, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter devant Dieu et le prier. Prions. Grand Dieu, nous voulons te remercier pour qui tu es, ton souci pour chaque être humain sur la face de la terre, de les attirer à toi, de permettre à ce qu'ils soient réconciliés avec toi dans une relation personnelle. Et notre Dieu, tu veux te servir de nous pour venir en aide à d'autres, comme d'autres sont venus en aide pour nous ici. Et notre Dieu, on te prie que ce matin, que tu parles à nos cœurs par ta parole, que ton esprit agisse et que ce projet qui a été présenté, eh bien, ce ne soit pas juste vu comme un autre projet. Ce ne soit pas vu simplement comme une qualité de l'argent. Que ce ne soit pas vu comme simplement une autre occasion de mettre un poids de culpabilité sur les gens. Seigneur, on voudrait que ce soit d'abord ton projet et que par ton esprit, par l'œuvre que tu as accompli dans nos vies, que tu puisses nous amener à voir comment est-ce que ça peut devenir notre projet en tant qu'Église, mais aussi en tant qu'individu. Père, il y a tellement de besoins dans ce monde. Et on sait que tu te soucies de ces besoins. Tu connais notre situation, comparativement à bien d'autres, on est dans l'abondance. Et on te prie que tu puisses nous aider de bien gérer ce que tu nous confies, afin que ton œuvre puisse continuer à aller de l'avant. Par Jésus-Christ. Amen. J'aimerais vous inviter de tourner dans 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8. Et j'aimerais en faire la lecture des 15 premiers versets. Et pendant que je fais la lecture, cherchez à voir, à comprendre, à saisir ce que l'apôtre Paul essaie de communiquer aux Corinthiens. Mais je dirais, il faut aller plus loin que ça, dans le sens que c'est Dieu qui révèle par l'entremise de l'apôtre Paul, dans un sens, son battement de cœur à lui, le battement de cœur de Dieu par rapport à ceux qui sont ici-bas sur terre. Alors, 2 Corinthiens 8, il dit, « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tout égard. Et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus. Car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous aviez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans les circonstances présentes, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Lorsque l'apôtre Paul a débuté son ministère, il a rencontré les dirigeants de l'Église de Jérusalem. Et dans Galates, ils rapportent, on va dire, cet entretien, et ils sont venus à la décision ensemble que Pierre irait accomplir un ministère auprès des Juifs et Paul et Barnabas auprès des non-Juifs. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans Galates 2.10, Paul précise qu'il y a eu comme dans cette entente-là un volet important. Et voici ce que ça dit dans Galates 2.10. « Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. » Alors, tout au long des actes des apôtres et même des épîtres, on voit qu'il y a plusieurs fois la mention de collecte pour venir en aide aux croyants éprouvés et dans le besoin. Et c'est dans ce contexte que le passage qu'on vient de lire dans 2 Corinthiens 8 se trouve. C'est-à-dire, Paul voulait encourager ses lecteurs à contribuer à la collecte pour les croyants de l'Église de Jérusalem. Et dans ce but-là, il écrit chapitre 8 et 9 de 2 Corinthiens. Et on a lu juste seulement les 15 premiers versets et on voit qu'il y a beaucoup de, en tout cas, de points de réflexion tout au long. Presque chaque verset nous communique la pensée, des vérités importantes par rapport à donner. On voit beaucoup de principes qui sont présentés. Même en faisant un petit peu de recherche, j'ai vu que quelqu'un qui a fait une liste de principes, il y en a plus qu'une douzaine. Fait que j'ai dit, si je m'arrête sur chacun de cette douzaine-là, on va être ici jusqu'à 6 heures. Fait que je vais vous épargner ça. Vous êtes soulagés parce que vous savez qu'il y a un repas qui est servi après. Hein? Bon, ben, en tout cas. Mais, quand même, j'aimerais vous laisser avec quelques réflexions tirées des versets que nous avons lus. Et le verset qui a attiré mon attention quand je lisais ce passage-là, c'est dans 2 Corinthiens 8, 13, et c'est dans la version seconde 21, ça fait que ça se dit, c'est exprimé un peu différent, mais l'idée est pareille. Il dit, en effet, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres, mais de suivre un principe d'égalité. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ça, suivre un principe d'égalité? Est-ce que ça veut dire que là, avant de partir ce matin, on va mettre tout ça, l'argent dans un pot, puis on va séparer ça égal? Hein? Non, c'est pas tout à fait l'idée c'est pas le communisme, OK? C'est l'idée que Dieu confie à certains, on dire, plus d'argent qu'à d'autres. Des fois, c'est pas juste parce que Dieu n'a pas confié à d'autres, les autres qui ont mal géré. Ça arrive, OK? Mais c'est que quand on voit un vrai besoin, quelqu'un qui vient pas à bout de subvenir à la survie, eh bien, celui ou celle qui est en moyen a la possibilité devant Dieu de dire, bien, j'ai la possibilité de venir en aide, de contribuer à aider mon frère ou ma sœur, ou même un peu étranger, à passer cette phase, cette épreuve. Et en espérant qu'à leur tour, ces personnes-là, quand ils seront mieux nantis, puissent faire de même. Alors, c'est de suivre un principe d'égalité. Et je me suis dit, eh bien, comment est-ce que je pourrais appliquer ça de point dans ma vie? Et quels sont les principes que Paul cherche à nous communiquer? Eh bien, partager trois choses que j'ai... je dirais les plus importantes, il y en avait d'autres, là, mais c'est que premièrement, le principe d'égalité découle de l'expérience de la grâce. Alors, au verset 1, il nous est dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Et le mot « grâce » va être utilisé à plusieurs reprises dans ces deux chapitres, mais même aussi, on le voit ailleurs, dans d'autres lettres, dans d'autres portions des Écritures. Et quand on parle de grâce, on parle de disposition, mais aussi, parfois, ça veut dire le don lui-même. J'ai vite fait regarder, voir comment est-ce que le mot était utilisé, le mot original. Et ça parle de grâce, de faveur, de bonté, de don, de bienfait, de reconnaissance. C'est le contexte qui détermine quel est au juste le sens du mot grâce ou du mot original. Ce qui doit nous motiver à donner, c'est premièrement la grâce de Dieu. C'est que Dieu a donné. La grâce, c'est une faveur non méritée. C'est sur cette base que Dieu offre le salut, le pardon des péchés, la possibilité d'être réconcilié avec lui par l'entremise du sacrifice de Jésus-Christ. Et ce salut est complet et entier. je ne peux rien y rajouter. Ni vous non plus. Alors, comme Dieu donne sur la base de la grâce, et ayant connu la grâce de Dieu, le réflexe qui devrait ressortir de ma part, ce serait de donner sur la base de la grâce et non sur la base de mérite. Et ça ne veut pas dire que je dois donner à gauche et à droite sans réflexion, mais Dieu s'attend à ce que je sois un bon gestionnaire des biens qu'il me confie. Et je ne dois pas donner sur la base de mérite, parce qu'autrement, ce n'est plus un don, ce n'est plus une grâce. Alors, suivre un principe d'égalité doit découler de l'expérience de la grâce, ayant connu, vécu, expérimenté cette grâce que Dieu m'a faite, eh bien, je veux me remettre entre ses mains pour répandre cette grâce selon le moyen et la manière qu'il veut. Deuxièmement, suivre un principe d'égalité, c'est défini par l'exemple de la grâce. Et dès le premier verset, il fait ma référence aux églises de la Macédoine. C'était une autre région. Et Paul va se servir d'eux comme, en voulant dire, eux, ces églises-là, ayant connu la grâce de Dieu, eh bien, on voit que malgré leur pauvreté, eh bien, ils ont donné avec joie. Et ce qu'on voit au verset 2. Ils, à travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Alors, ils ont donné malgré leur pauvreté. Moi, j'ai déjà entendu plusieurs fois à travers mon vécu, quelqu'un, il dit, si je pouvais seulement gagner la loto, la loterie, puis gagner 1 million, là, je donnerais. À ma connaissance, ces personnes-là, ils l'ont pas gagné. En tout cas, ils m'en ont pas laissé savoir. Ou s'ils l'ont gagné, ils ont décidé qu'il y avait changé d'idée. On voit ici, par l'exemple des églises de la Macédoine, malgré leur pauvreté, malgré les épreuves, les difficultés, ils ont donné. Ils ont donné selon leurs moyens. Disons que chacun d'entre nous, on avait, je sais pas moi, 1 $. OK? Puis là, on avait l'occasion de donner une partie de ce dollar-là. Puis disons que moi, je dis, bon, ben moi, je vais donner, je vais être généreux aujourd'hui, et je vais donner 20 cents de mon dollar. OK? Mais là, tout d'un coup, je me mets à penser, mais 20 cents, c'est pas grand-chose. Fait que plus que j'y pense, plus que je me dis, bon, ben 20 cents, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Fait que je me dis, ben peut-être que je serais mieux de donner 10 cents. Oui, mais si tu donnes 10 cents, tu peux faire moins que 20 cents. Fait que là, du fait que ça ne fait pas grande différence, je suis tout souvent de ne pas le donner. Hein? Parce qu'après tout. Mais si chacun d'entre nous pense comme ça, puis que là, il se présente un besoin, combien est-ce qu'il va y avoir dans, je sais pas, moi, dans l'offrande? L'assiette, on va voir le fond. Okay? Ce n'est pas, on va dire, la quantité qu'on donne. C'est à savoir, qu'est-ce que Dieu m'a confié, puis comment est-ce que je vais gérer, contribuer. Et après nous avoir donné ou mentionné l'exemple de l'Église de la Macédoine, au verset 9, il mentionne l'exemple par excellence. De Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait pauvre. Et on a une description de cela dans Philippiens chapitre 2. C'est l'exemple par excellence. Jésus qui a laissé le ciel, le trône, il s'est abaissé afin qu'on puisse, comme il mentionnait, être enrichi. Et la richesse dont il est question, c'est naturellement pas nécessairement matériel, mais spirituel. Alors, donner sur la base de la grâce, c'est de donner avec la disposition caractérisant, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. On est appelé à être des disciples de Christ. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit. C'est quelqu'un qui va mettre en pratique ce que son maître lui enseigne. Et Jésus n'a pas seulement enseigné par sa parole, mais par sa manière de vivre, sa conduite. Et troisièmement, suivre un principe d'égalité, ça se démontre par l'expression de la grâce dans ma vie, ou devrait au moins. Dans 2 Corinthiens 8, 4, nous lisons, « Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. » Alors, même s'ils étaient pauvres, là, ils ont dit, « Nous demandons avec... » un peu là. « Nous demandons avec de grandes insistances. » Malgré le fait, ils voulaient tellement, ils disaient, « Paul, laisse-nous donner. » On veut contribuer. On veut faire notre part pour venir en aide à ces croyants à Jérusalem. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que prendre part, dans l'original, c'est le mot qui est traduit ailleurs par communion fraternelle ou contribution, mettre en commun, solidarité, association, participation, entraider. Ils ont demandé avec insistance, laisse-nous prendre part, participer, contribuer. Et au verset 7, on lit, et là je lis de second 21, il dit, « Votre côté, vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Vous abondez dans tellement d'autres domaines, alors abondez aussi dans cet acte de grâce. Alors, on vous a présenté ce matin le projet de Mataba. Un projet parmi tant d'autres. On a essayé de présenter ça aussi clairement que possible avec des chiffres. Et je vous encourage de relire 2 Corinthiens 8 et même jusqu'à la fin de 9. Le dernier verset du chapitre 9 dit « Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux » ou, en d'autres traductions, « ineffable ». Sur cela, je vous laisse. Et je prie que Dieu puisse vous donner l'occasion de réfléchir sur ces choses qui ont été partagées. Et si vous avez des questions, bien, il y a toujours Vincent qui est assez bien informé. Et aussi pour le projet des orphelins, il y a en arrière. Alors, j'aimerais qu'on puisse terminer avec la prière. Grand Dieu, nous te remercions, nous te louons de ce que tu nous as fait grâce. Et on te prie que par ton esprit qui agit en nous, par l'entremise des vérités de ta parole, que tu puisses nous aider à mieux comprendre cette grâce que tu nous as faite et que nous puissions démontrer cette grâce d'une manière concrète et tangible, d'une manière qui va t'honorer et qui va te glorifier. Amen.